BFM Bourse, on refait la séance.
Éric Lewin, directeur des publications Agora.
Bonjour. Vous présentez à l'élection présidentielle, vous avez une tenue de présidentielle.
Non, de croque-mort, vous m'avez dit hors antenne. Je vous remercie.
Non, mais ça, c'était pas sympa. C'est ma pique quotidienne. Comme on n'a pas Christian Fontaine, c'est ma pique quotidienne.
Les bons mots d'Éric Lewin. Il paraît que j'ai une cravate de croque-mort. Vous pouvez m'écrire sur Twitter pour me le dire si vous pensez également qu'il ne faut pas que je la reporte. On va parler d'abord de la séance, évidemment. On aurait pu s'attendre au pire, hein, après ce qui s'est passé ce week-end, attaque de l'Iran sur Israël. Alors, on a été prévenu, puisque les journaux en parlaient déjà avant le week-end, donc c'est pricé quelque part. Mais finalement, les marchés ont encaissé la nouvelle.
On aurait pu s'attendre au pire, peut-être avant l'attaque, oui. Mais quand on a vu que l'attaque a fait simplement une fillette, certes, qui a été gravement blessée, on peut se dire que finalement, alors les gens vont sursauter si je dis ça, mais c'est un peu un non-event d'un point de vue économique, dans la mesure où le baril du pétrole, on l'a vu, n'a pas beaucoup monté. Il a même reculé aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il avait gagné 15% depuis le début de l'année, mais on a le sentiment que tant qu'il n'y a pas un vrai conflit entre Israël et l'Iran, quand je parle d'un vrai conflit, c'est le blocage du détroit d'Ormuz, Israël qui va taper les sites nucléaires en Iran, bref, tant qu'on n'est pas dans ce cas de figure, il n'y a pas de raison de craindre un embrasement, notamment parce que la grande angoisse existentielle, c'est que le pétrole aille vers $100. Si le pétrole va vers $100, on sait que toute hausse de 10% du baril, ça peut faire 0,3-0,4% d'inflation. Ça voudrait dire que les baisses des taux qu'on attend cette année, une à deux aux États-Unis, il n'y aurait pas de baisse des taux, et donc on serait dans un scénario un peu cata, ralentissement de la croissance mondiale, inflation qui repart, des taux qui ne baissent pas, et donc des marchés qui baissent. Tant qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on peut rester relativement optimiste sur les marchés, avec quand même cet après-midi une tension sur le 10 ans américain qui est à 4,62, qui est au plus haut depuis novembre 2023. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que les chiffres des ventes de détail qui sont sortis cet après-midi sont supérieurs aux attentes, et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, alors qu'en début d'année on prévoyait 6 baisses de taux d'intérêt, si on en a 2 cette année, ce sera Byzance, dans la mesure où on a toujours une économie américaine qui a des handicaps comme ce déficit budgétaire qui représente 7% du PIB, mais une économie américaine qui est solide, et ça c'est vraiment l'excellente nouvelle de ce début d'année, même si certains peuvent se dire qu'à cause de ça, il n'y aura pas de baisse des taux. Mais moi, je trouve que tant qu'on a une économie solide et pas de baisse des taux, c'est très bien. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est une poussée de l'inflation. Et donc, tant qu'on n'a pas cette poussée réelle de l'inflation, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, la séance du jour, oui, on gagnait 1,2%, on gagne plus que 0,40%. Ce n'est pas si grave non plus.
Ouais. Vous y croyez, vous, au scénario d'un statu quo monétaire de la Fed jusqu'aux élections américaines?
Ben, on sait que la Fed... Alors, on sait que Powell va sauter si Trump est élu, c'est ce qu'il avait dit.
Enfin, sur le papier, il ne peut pas le virer. Hein.
Il ne peut pas le virer, mais il peut ne pas le reconduire à terme.
Ouais, alors, il faut voir.
Dans deux ans, certes. Mais il peut lui faire les misères, il peut le contredire. On sait très bien qu'à 2-3 mois d'une élection américaine, la Fed est sur des charbons ardents. Elle n'a pas tellement envie non plus de trop se prononcer. Donc... Que fera la Fed? Ben, au vu de la croissance, au vu de l'inflation qui ne baisse pas, puisqu'on est sur un train de 3,3-3,4% aux États-Unis, il n'y a pas de raison d'espérer de fortes baisses des taux aux États-Unis, ce qui ne sera pas le cas. Et j'espère de tout cœur que la BCE, je crois que c'est prévu pour juin, va enfin baisser ses taux d'intérêt. Parce que moi, j'ai regardé la conférence de presse de Lagarde. Très honnêtement, les justificatifs sur lesquels il n'y a pas de baisse des taux, faudrait m'expliquer, je comprends pas, parce que quand on voit comment la zone euro est en ralentissement, avec franchement une espèce d'apathie, on peut se demander, mais quand la BCE va enfin baisser ses taux d'intérêt?
Ouais. On va parler des valeurs qui se sont distinguées aujourd'hui. On commence par Total Energy. Alors, il y a un impact des cours du pétrole spot sur le jour. On est repassé sous les $90 le baril pour le Brent. Mais c'est une valeur qui avait beaucoup progressé.
Elle avait progressé de 11% depuis le début de l'année. On est à un plus haut historique. Total Energy, que dire? C'est un très beau dossier. D'abord, elle a des coûts de production. Je regardais, c'est entre 5 et $6. Par baril, donc elle a parmi les coûts de production les plus faibles au monde, et en tout cas nettement inférieurs à ceux des grandes compagnies pétrolières européennes. Dans sa politique d'investissement, je crois qu'il y a 36 milliards d'investissements, mais il y a la moitié qui est consacrée à des vrais investissements, c'est-à-dire le pétrole et les renouvelables, et l'autre moitié qui est consacrée rachat d'actions, dividendes. Donc c'est un groupe qui est très bien géré. Alors les gérants qui font de l'ESG vont me dire non, le groupe n'est pas ESG, on veut pas en acheter. Mais je crois qu'il y a eu un baromètre fait par la Caisse des dépôts où finalement ils ont une note supérieure à la moyenne. Et moi, ce que j'aime bien sur ce dossier, c'est que c'est bien géré. Ils ont les coûts de production, je disais, parmi les plus faibles de la planète. Ça se paye encore pas très cher puisqu'en termes de rendement, on est entre 3,5 et 4 avec un PER de 7. Donc moi, j'ai le sentiment que Total peut redémarrer, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'il est évident que si le pétrole monte, plutôt d'acheter des turbocalls ou des varans comme aime le faire Romain Daubry, c'est sa grande spécialité. Moi, je considère que si on voit un pétrole aller vers $100, autant acheter du Vallourec ou autant acheter du Total Energy.
Ça, c'était la petite caresse pour
Il est très doué. Non, mais attendez, il est très doué là-dessus. Moi, je le critique pas du tout là-dessus, mais il est beaucoup plus.
Il est obsédé par les turbos et les varans.
Non, mais il est très bon. C'est son domaine de prédilection. Il faut en parler.
Romain, qui est avec nous, on est à $68.29 précisément à la clôture sur Total Energy.
68 euros.
Euros, c'est coté en euros, pardon, excusez-moi. 1,16% de baisse. 68,29 €, ça nous amène où?
Alors, ça nous amène pour l'instant une cible qu'on a touchée, c'est 69,30. On l'a atteinte la semaine dernière et donc on consolide un tout petit peu depuis. Total, on a consolidé longtemps dans un grand trading range entre septembre 2023 et mars 2024, entre 56,05 et 62,30. Dès qu'on a débordé 62,30, on a réactivé une dynamique haussière et une dynamique très harmonieuse puisque le titre évolue au sein d'un canal haussier depuis octobre 2020. Donc, c'est un parcours graphique très propre. 69,30, c'est une première résistance. Le titre pourrait consolider un peu entre 66,74 et 69,30. Et puis les extensions ensuite, si on arrive à déborder ce niveau, c'est le haut du canal et donc 71,88 et pourquoi pas 76,05. On n'a aucune invalidation tant qu'on est au-dessus de 56,05. Donc il y a vraiment de la marge pour le titre.
On va parler d'une valeur qui profite de la remontée des cours du nickel très récemment, c'est Eramet. Ce soir, le titre termine en progression de 0,76%, 72,65 €.
Ouais, enfin, c'est pas Byzance parce qu'on gagnait 3%. Il y a de nouvelles sanctions contre les métaux russes. Alors Eramet, c'est quoi? C'est du nickel, c'est du manganèse, mais c'est aussi du lithium au Chili et une usine qui devrait être opérationnelle en Argentine. La problématique l'an dernier, les résultats ont été plus que médiocre, dans la mesure où le nickel et le manganèse ont fortement baissé. Depuis le début de l'année, le nickel se tient bien. Doit gagner 10%, je pense que c'est une belle recovery.
Ça se met 13 fois les perspectives de résultats.
Alors 13 fois 2024, mais sur 2025, vous allez dire que je suis embêtant, j'essaye de fignoler exprès pour vous contredire, c'est pas le fait. Sur 2025, ça vaut 7 fois les bénéfices. Donc c'est un titre quand même qui est très très en retard. Je crois que sur un an, il doit perdre 30% environ. Donc moi, j'ai le sentiment qu'en plus avec le lithium, vous savez que le lithium est utilisé pour cette fameuse transition énergétique. Je trouve que le groupe est bien placé. Et pour peu que les métaux continuent à progresser, notamment du côté des nickel, c'est un titre que je verrais plutôt du côté des 90 € que du côté des 72 € actuellement. Donc j'ai plutôt envie d'acheter cette valeur. Encore une fois, plutôt qu'acheter des turbos sur le nickel ou des turbos sur le manganèse, aller chercher des produits mais qui sont compliqués. C'est pas du tout une critique de ce que fait Romain, mais c'est compliqué pour un particulier d'acheter des cols nickel ou des choses comme ça. Je pense que Eramet, c'est la parfaite société si on croit vraiment que les métaux vont continuer leur progression. Et en plus, on a un call sur la transition énergétique avec leur investissement dans le lithium.
Romain, on est à 72,65 €. Techniquement, qu'est-ce que ça donne Eramet?
Alors, une précision quand même sur les produits effet de levier, c'est effectivement des outils extraordinaires, mais je ne travaille pas que ça et on propose pas que ça. C'est des outils à utiliser en complément du reste.
Il va se vexer, hein.
Ça, c'était non, mais c'était pour préciser parce que je veux pas qu'on croie qu'on est des spéculateurs, enfin têtus et voilà, on fait des choses beaucoup plus souples aussi. Et Vallourec, on est dessus et investi depuis le mois de novembre et des stratégies qui sont beaucoup plus souples aussi pour les investisseurs. Mais effectivement, le levier peut être utilisé pour protéger et défendre son capital et pas uniquement pour faire de la spéculation brutale. Parenthèse fermée, Eramet évoluait sous une ligne de tendance baissière depuis long terme et jusqu'au mois jusqu'au 25 mars dernier, la semaine du 25 mars, où elle a débordé cette ligne de tendance pour éventuellement réactiver une dynamique haussière. Reste qu'elle est bloquée dans un trading range 59,70 75-20, elle n'arrive pas à déborder le niveau de 75-20 pour l'instant, et c'est vraiment le plafond de verre. Si elle en sort, effectivement, je rejoins tout à fait les cours d'Eric, on arriverait à 90-30, première cible graphique sur le titre. Si en revanche, on repasse sous 66-30, on invalide cette sortie par le haut, on invalide la recovery, et donc c'est un mouvement qui serait avorté. Pour l'instant, c'est vraiment 75-20 le plafond de verre à déborder, mais on accumule en dessous depuis 3 semaines, ça pourrait arriver.
On termine avec deux entreprises qui vont publier dans les prochains jours, LVMH et L'Oréal.
Bon, alors du côté de LVMH, on attend une croissance organique de l'ordre de 3%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de comparaison était très élevée l'année dernière, dans la mesure où, vous savez, la Chine sortait de toutes les restrictions liées au Covid. La problématique pour LVMH, c'est comment ça va se passer sur la Chine. Je crois qu'il y a un PIB chinois qui doit sortir. Je suis sûr que vous serez réveillé à 2h du matin cette nuit, Stéphane.
On est toujours réveillé.
On le commentera ensemble. On risque d'avoir une croissance de 4,5% du PIB, donc un léger ralentissement. On sent que le tourisme en Chine et la consommation, que ce soit Macao, que ce soit Hong Kong, c'est un peu plus compliqué. Donc on pourrait avoir peut-être une légère déception. Mais enfin, pour moi, ça a l'air d'être intégré dans les cours, dans la mesure où LVMH vient de perdre 8% en l'espace d'un mois. L'autre publie, c'est L'Oréal. L'Oréal qui vient également de perdre 8% en un mois. Alors, la grande problématique sur L'Oréal, c'est est-ce que le leader mondial des cosmétiques va faire pareil que l'an dernier, où il a affiché une forte croissance, une génération de cash flow, je crois que c'était plus de 6 milliards, et surtout une rentabilité opérationnelle de 9,5%. Il faudra vraiment une bonne publication pour que le titre parte à la hausse, dans la mesure où, quand on regarde les ratios de valorisation de L'Oréal, on est quand même entre 32 et 34 fois. Alors, je sais que la qualité se paye en bourse. Je sais que L'Oréal, c'est l'excellence, mais le dossier me paraît un peu pricé. Du côté d'LVMH, j'ai oublié de parler des ratios. On est revenu sur un ratio de 23-24. Ça reste cher, mais on n'est pas dans les 60 d'Hermès. Donc, plutôt long sur LVMH, sauf mauvaise surprise, et plutôt neutre dans la période actuelle sur L'Oréal, avec peut-être des déceptions du côté des cosmétiques sur la Chine, qui pourrait amorcer un léger ralentissement. Janvier et février avaient été bons en Chine. On sent qu'en mars, les derniers indicateurs sont moins bons que prévu.
Romain, 794,80 euros sur LVMH. C'est 90 euros à la hache en dessous des plus hauts historiques de l'action.
Ouais, et un secteur qui, globalement, le luxe, qui a moins le vent en poupe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. En analyse graphique, on observe la force relative, donc la force du secteur par rapport aux autres, aux benchmarks, donc soit l'Eurostoxx, soit le CAC 40 pour nous en Europe. Et effectivement, le secteur a moins le vent en poupe. Ça signifie que les opérateurs, les grosses mains du marché s'intéressent moins au secteur, et ça se traduit dans les cours. Alors, effectivement, LVMH a rompu un niveau de support entre 810,40 et 816 avec un gap baissier important le 5 avril. Ça donne une connotation, un biais un petit peu baissier sur le titre, mais c'est relativement canalisé avec des petits rebonds un peu marqués. Donc on est bloqué pour l'instant entre 810 et 772. Le biais est plutôt un peu baissier, mais mollement on peut dire. La cible idéale de la consolidation, elle renverrait le titre vers 740. Si en revanche on repasse 810-816, on peut réactiver une dynamique haussière qu'on de toute façon n'estime pas très forte, et au débordement de 816 pour aller chercher des extensions entre 850 et 865. Sur L'Oréal, c'est plus baissier, c'est plus gênant. C'est un titre qu'on a proposé à la baisse il y a quelques semaines déjà, contre 436. La configuration n'est pas excellente, et c'est un titre qui bien souffre de cette sous-performance du secteur aussi. Pour l'instant, elle se bagarre entre 405 et 417. Il faudrait vraiment réintégrer en clôture 422 et puis 431 pour réactiver une dynamique. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, les chances d'accélération baissière sont importantes. Donc la première cible 405,40, et puis ensuite, pourquoi pas, 386,40. Ça laisse encore du potentiel de baisse pour le titre.
Merci beaucoup, Romain Dobry, info d'expert chez Bourse Direct. Eric, un mot pour terminer. On est à 3 semaines du mois de mai. D'habitude, en mai, on vend tout et on s'en va. Hein. Sell in May and go away.
Non, mais ça me fait marrer. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut pas ramasser un couteau qui tombe. Non, mais.
Cela dit, ça se vérifie quand même assez souvent.
Ouais, mais on verra. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce qui m'inquiète un tout petit peu quand même, c'est que je trouve qu'il y a plus tellement de catalyseurs sur les marchés. Je crois pas que les trimestriels vont donner le là, dans la mesure où on voit déjà que les premières publications, JP et Wells, c'était pas terrible vendredi, Goldman Sachs est un petit peu meilleur aujourd'hui. Je pense que tout va se jouer avec l'inflation. Je crois que le vrai là, c'est est-ce que l'inflation
est de retour.
J'enlève le problème géopolitique Iran-Israël sur lequel on a déjà parlé, mais si l'inflation est vraiment de retour ou si l'inflation ne baisse pas et si on a des taux élevés, je pense que les marchés devraient quand même légèrement décrocher. Maintenant, si on a des bonnes surprises du côté de l'inflation, notamment du côté des services, du côté de l'immobilier aux États-Unis, alors là, on peut être relativement optimiste sur les marchés. Mais encore une fois, j'ai quand même le sentiment que ce qu'on a fait au premier trimestre, sur les quatre premiers mois de l'année, ça m'étonnerait qu'on le reproduise sur les quatre prochains mois d'ici septembre. Donc je pense qu'on va rester dans une fourchette, aller 7007, 8002, 8300 points, et qu'on va naviguer en fonction de tout ce qui peut se passer sur les marchés, hors évidemment éléments géopolitiques.
Merci beaucoup, Eric Lewin, directeur des publications Agora.